Les voix des livres.
Les voix des livres. Les voix des livres.
On no koe.
Suara suara buku.
Bonjour Claire, Guillaume, merci d'avoir accepté cette interview avec Daniel et moi. Donc on est aux Intergalactiques de Lyon. Cette année le thème c'est du pain et des jeux. Donc on souhaitait pouvoir vous parler de votre cycle, le cycle de la tour de garde. Donc vous avez écrit deux cycles, l'un et l'autre, enfin pardon, deux trilogies, les deux trilogies se rejoignant. Donc Guillaume, on se tutoie, c'est peut-être plus simple.
On va se tutoyer, oui.
Guillaume, tu as écrit donc une trilogie donc, qui s'appelle Capitale du Sud, donc qui se passe dans une ville du Sud qui s'appelle Gemina. Et donc on suit notamment le personnage de Nox, qui est un commis d'épicerie, et qui a la particularité d'être sous l'aile d'un duc, ce qui n'est pas commun quand même pour un commis d'épicerie, mais bon, ça s'explique du fait de son histoire personnelle que le lecteur est amené à découvrir. Et donc il y a beaucoup d'intrigues politiques, des ducs qui se partagent la gouvernance de la ville, et donc le personnage de Nox va être pris en plein là-dedans. Claire, donc, tu as écrit une trilogie donc, qui s'appelle Capitale du Nord. Je ne l'ai pas précisé, mais Gemina, c'est un peu la renaissance italienne en termes de cadre. Et donc la Capitale du Nord, c'est plus Copenhague, si on devait situer un
Amsterdam.
Peu.
Amsterdam.
Ouais, okay. On suit trois enfants qui ont reçu une éducation particulière, assez cartésienne, on en parlera. Il y en a deux qui sont issus de la noblesse, qui donc leurs parents voilà, leur ont fait une éducation assez à part, cartésienne, et pourtant ils vont être confrontés à des choses qui ne le sont pas du tout, puisqu'il y a l'un des enfants qui va enterrer trois objets pour les ensorceler et leur donner un caractère magique. Ces deux trilogies se situent dans le même univers de fantasy, donc je le disais, type Renaissance. C'est dans la même trame temporelle et ça finit par se rejoindre.
Voilà, c'est ça. C'est vraiment, ça se déroule en simultané dans une ville et dans l'autre, chacune des deux histoires. On va voir des personnages qui vont se balader d'une ville à l'autre, des personnages secondaires, des événements qui ont lieu dans une ville et qui ont des répercussions dans l'autre. Et évidemment, et effectivement, dans les tomes 3, comme tu disais, les personnages principaux finissent même par se croiser.
Ouais. Déjà, j'avais envie de vous demander qu'est-ce qui vous avait donné envie d'écrire ensemble.
Déjà, on est en couple depuis un certain nombre d'années, je dirais.
Un certain nombre.
Et une des choses qui nous rapprochait par les lectures, le jeu de rôle et plein de choses, c'est les voyages. Et on aime beaucoup voyager. Et en fait, je pense que tout est parti vraiment d'un voyage à Sienne, où on est vraiment tombé amoureux de la ville. On s'est dit, on y allait. Je ne vais pas dire, on ne va pas à Sienne par hasard, mais c'était une des choses qu'on avait envie de visiter, en se disant, il paraît que c'est joli. Bon, on est allé, on est ressorti, on était sur un petit nuage. C'est génial, c'est une ville de fantaisie, c'est une ville médiévale, avec chaque quartier qui a un animal totem. Donc on était comme des fous en sortant de là. Et on a, ça nous a poussé, au lieu de s'acheter un souvenir avec Sienne sous une boule à neige, ou tout ça, on s'est créé notre propre double fictionnel de Sienne, en fait.
Pendant le séjour.
En rentrant, en fait. On se lève du départ. Hein, et l'idée, c'était.
Et surtout, on rentrait en train de Sienne à Paris, ça prend un peu de temps.
D'accord.
Et de créer en fait ce double fictionnel de Sienne en disant, bah voilà, on va faire plein de quartiers en plus, ce sera plus grand, il y aura deux murs. On a ajouté plein de choses qu'on avait, parce que c'était un voyage en Toscane, donc on avait aussi visité Florence. Donc on a ajouté plein d'éléments de la Florence des Médicis, des histoires de trahison, de KPDP. Enfin, finalement, c'est un peu notre souvenir de voyage, c'est une espèce de conceptualisation de ville. Mais on n'en a rien fait sur le moment, c'était vraiment juste le petit souvenir qu'on a mis sur l'étagère.
Il n'y avait pas de souhait particulier, c'était juste pour le plaisir.
Pas au début,
juste pour le plaisir. Vraiment écrire pour écrire, enfin même pas écrire de roman, juste écrire une description de la ville pour le plaisir en disant un jour ça nous servira pour un jeu de rôle, pour un truc.
Et puis c'est passé à peu près la même chose quelques années plus tard après un voyage à Amsterdam donc. Pour nous c'est un peu aussi l'occasion de découvrir cette époque de l'histoire qu'on connaît moins finalement que la Renaissance italienne. Mais moi, qui me paraissait vraiment hyper intéressante, dans le sens, voilà, c'est une société qui était très en avance sur son temps, notamment en termes de tolérance, en termes de science, en art aussi, ce qui est un aspect que j'ai un peu omis à De Haven pour des raisons de scénario, mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'utiliser ce décor-là pour un jeu de rôle ou un roman ou quoi que ce soit, que ça ferait une fantasy un peu différente. Et surtout, en fait, en ayant cette deuxième petite ville sous cloche, souvenir de voyage, on s'est dit, c'est marrant parce que ces deux villes, finalement, on peut presque les opposer. C'est vraiment deux conceptions de la Renaissance en Europe. Et puis en tirant un peu quelques traits, en exagérant quelques caractéristiques, on peut vraiment en faire deux complets contraires, comme on a fait pour Gemina et De Haven, avec d'un côté Gemina qui est cette ville des mythes, du panache, du bien vivre, et De Haven qui est peut-être un peu plus froide, qui est plus sur la science, le progrès, des choses comme ça, quoi. Donc en forçant un peu le trait, là on avait nos deux villes. Et à partir du moment où on avait ces deux villes-là, on a mis des gens dedans.
Voilà.
Donc il y a une intrigue d'ensemble, on le disait, puisque les personnages se rejoignent, mais il y a aussi des intrigues séparées. Est-ce que qu'est-ce que vous avez conçu ensemble, qu'est-ce que vous avez conçu de manière séparée? Puisque il y a bien, vous n'avez pas à poser vos deux noms sur chaque cycle, chaque trilogie. Vous auriez peut-être d'ailleurs pu le faire.
En fait, il y a même trois niveaux. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ce qu'on a conçu ensemble.
Ouais.
C'est-à-dire en l'occurrence, ce qu'on appelle en fantasy le world building, le fait qu'il y ait deux villes, les grandes lignes de chacune des villes, qu'est-ce qui les caractérise particulièrement, etc. Tout ça, effectivement, on l'a vraiment fait ensemble. Après, il y a le deuxième niveau qui est, je veux dire, plus déjà collaboratif, où en fait, on a juste échangé en disant, à Gemina, il va se passer ça. En gros, les grandes lignes sur une demi-page, quels sont les grands événements qui vont caractériser le cycle au sein de l'histoire. Utilise ce que tu veux utiliser pour The Haven. Pareil, à côté de Haven, j'avais eu un résumé de la part de Claire, où effectivement, on avait vraiment les grandes lignes. Et puis après, il y a le troisième niveau, où là, c'est chacun écrit dans son coin. Alors, en se faisant lire, évidemment, histoire de pouvoir ajuster au fur et à mesure avec les éléments, en discutant beaucoup, je suis allé voir Claire, on était en train de couper des oignons, je dis écoute, j'ai besoin d'un personnage, il vient du Nord, sache qu'il va lui arriver ça, il va lui arriver ça, va lui arriver ça, du coup elle l'intègre dans son récit, et puis chacun repart dans son coin pour écrire. Donc voilà, ça s'est vraiment passé comme ça.
Il y avait dès le début ce côté collaboratif, il fait un peu, il y avait un côté jeu de rôle sur maître de jeu finalement, on s'était donné les règles de l'univers, et après chacun écrit l'histoire, et on se tient au jus en fait pour savoir qu'est-ce qu'il a fait dans le personnage. Quoi.
Vous relisez l'un l'autre quand vous écrivez?
Toujours.
Ouais, vraiment à la fin de chaque chapitre, histoire d'avoir quand même quelque chose de cohérent, c'est des longs chapitres quand même.
En plus, vous êtes du métier, donc vous avez cet avantage en tant qu'auteur d'être du métier, de travailler sur des textes dans vos différentes activités professionnelles.
Oui, mais c'est vrai que le fait de le faire deux comme ça aussi, ça nous permettait d'ajouter du fuel en fait,
Vous aviez tout pour
le
vous.
Le côté inspiration, où effectivement c'était, toi t'es parti dans cette direction, attends, je vais mettre un élément qui ressemble, parce que comme ça ce sera pas mal, moi ça me sert dans mon intrigue aussi, et c'est vrai qu'il y avait un côté ping-pong qui était hyper jouissif quand même. Enfin tout ça, ça a duré pour l'écriture des deux premiers tomes de chaque trilogie, donc des quatre premiers tomes de la saga on va dire, et en fait c'est seulement après avoir fini tout ça, toute cette masse de textes, qu'on l'a proposé à mon éditeur, parce que j'étais déjà publié au Forge Vulcain.
Oui c'est ça. Pour un si long voyage, c'est ça?
Pour un long voyage, ouais.
Un long voyage, pardon.
Sachant que cet exercice-là, entre guillemets, on l'avait même pas fait pour être publié. C'est-à-dire que c'était juste un jeu entre nous, et puis quand on l'a commencé, on savait pas où ça nous mènerait, on savait pas déjà si on dépasserait le deuxième chapitre, on savait pas si ce serait cohérent, parce que c'était une manière de travailler que nous on connaissait pas, enfin. Et c'est vraiment, effectivement, une fois arrivé à la fin de ces quatre premiers tomes, comme disait Claire, enfin, qui à l'époque était vraiment juste une masse de textes, en fait. C'était pas encore quatre tomes. Claire, qui entre-temps avait écrit un long voyage parce qu'elle écrit plus vite que moi, s'était faite publier aux Forges de Vulcain, et effectivement, David Meulemans des Forges de Vulcain lui avait dit « Ok, c'est quoi le prochain roman ?» Et on a discuté avec Claire, on s'est dit « On lui propose notre projet, là, qui est un peu chelou. »
C'est un projet, c'est énorme, c'est une grosse masse de texte, en plus on est deux dessus, l'autre auteur c'est mon mec, enfin voilà, ça sentait un peu le
faux. Ça sentait la loose quand même, parce que franchement...
Ça sentait le copinage.
L'autre auteur c'est mon mec, ça c'est vraiment le truc où je pense qu'il y a une goutte qui a coulé sur le front de David Meulemans quand il a entendu ça.
Mais quand il a lu, il a tout de suite dit oui.
Il a tout de suite dit oui, ouais, effectivement. Il l'a lu, je pense, par politesse, et en fait il a été emballé.
Et au niveau, oui, j'avais une question... personnel, entre guillemets, hein, pas trop quand même. Mais c'est exaltant, ça a duré 2-3 ans, cet exercice entre vous. C'est exaltant au niveau personnel, au niveau d'un couple, de créer quelque chose ensemble. Il n'y a rien de plus beau. Est-ce que vous allez continuer après ou ça va vous manquer si vous ne le faites plus?
Je pense qu'on le refera, parce que c'était un super exercice.
Parce que oui, c'était exaltant.
C'était vraiment chouette, c'était exaltant. faut vraiment qu'on trouve l'idée qui nous branche autant tous les deux pour le refaire.
Oui, pas le refaire pour le refaire.
Pas le refaire pour le refaire, clairement.
Peut-être le faire de manière différente.
Voilà, on trouvera peut-être d'autres modalités, un truc comme ça. Et surtout, pas tout de suite. Parce qu'on a aussi envie d'explorer des trucs qui sont peut-être un petit peu plus propres. Donc, on va faire un ou deux romans solo avant d'accord. de réenchaîner. Ouais.
Mais sachant que dans tous les cas, moi, quand j'écris, Claire, c'est ma première lectrice et vice-versa. Enfin, donc, chacun réagit quand même en disant ah, écoute, je l'aurais plutôt vu comme ça, qu'est-ce que t'en penses? Ah non, je suis. Bah, ok.
Et avant, vous aviez déjà une expérience d'écriture tous les deux
Un peu à l'adolescence, mais vraiment rien de très sérieux. C'était plus Guillaume, en fait.
S'il faut parler de la non-fiction qu'on a faite. On a fait des bouquins d'humour, en fait, chez un éditeur il y a quelques années. Sous pseudonyme qui ont un peu disparu. Enfin bref, je pense que ça n'existe plus, ce n'est plus disponible. Même,
ouais. Oui, c'était déjà à quatre mains, du coup.
C'était du vrai quatre mains, mais c'était de l'humour et de la non-fiction, donc c'était un peu différent.
Moi, je parlais plus de tes scénarios, en fait.
Après, voilà, moi, j'avais publié une nouvelle, par ailleurs. Et aussi, moi, j'avais une activité d'écriture sur des scénarios de jeux de rôle, en fait. Donc, notamment, on jouait beaucoup, on avait un groupe de jeux de rôle dont Claire faisait partie, j'étais maître de jeu et on avait un de ces joueurs, je sais pas si ça faisait déjà arrivé, qui avait une fâcheuse tendance à aller regarder les scénarios sur internet en fait. Donc, comme je joue à.
Ce n'est pas bien.
Ouais, c'est pas bien.
D'accord.
Ou en tout cas qu'il les connaissait, qu'il les avait lus, donc en fait j'étais obligé de les écrire et je m'étais lancé un défi un peu dingue, entre guillemets, d'écrire une campagne et la faire jouer d'une semaine sur l'autre, c'est-à-dire qu'à la fin de chaque session de jeu.
D'accord.
J'avais trois vagues orientations en disant ils auront décidé ça, ils n'auront pas décidé ça, etc. Et puis en fonction de ce que décidaient les joueurs, dans la semaine qui suivait, j'écrivais la suite de la campagne et on avançait un petit peu comme ça. Et on a fait ça pendant 2 ans. Ouais, deux ans, toutes les 2 semaines à peu près, on jouait. Et c'était un exercice d'écriture assez intense parce que c'est des joueurs qui poussaient un peu dans leur retranchement.
Je sais pas ce que tu veux dire.
Voilà. Et en fait, c'est vrai que on a fait ça pendant 2 ans et puis c'est pile à l'issue entre guillemets de ces 2 ans que le groupe de rôlistes a fait ce que font parfois les gens quand ils passent la trentaine, c'est-à-dire faire des enfants, partir en province,
faire autre chose,
voilà.
Ou en tout cas avoir moins de temps, en fait.
En tout cas, avoir moins de temps pour jouer.
On galérait de plus en plus pour trouver des dates.
Et du coup, l'activité d'écriture a perduré après le jeu de rôle.
Voilà, c'est
comme
un peu ça.
Comme beaucoup d'écrivains, pas que dans la fantasy, aussi dans le thriller,
Ça comble le manque un peu. Enfin, nous, on était en manque d'histoire et puis on avait envie de continuer à se raconter des histoires, quoi.
Et moi, j'ai une petite question, si tu me permets.
Vas-y, vas-y.
Pour revenir au récit, alors, il y a du fantastique, hein, parce qu'on a vraiment effleuré, avec ce petit résumé, on n'est pas rentré dans les choses fantastiques. Ça vient doucement, selon la capitale du Sud. La capitale du Sud, ça vient un petit peu plus vite, le côté fantastique dans la capitale du Nord. Mais il y a du fantastique, donc tous les amateurs de fantasy, vous ne serez pas déçus. Moi, ce qui m'intéressait, ce qui m'a fasciné, bizarrement, c'est plus l'organisation politique de ce monde qui est quelque chose de très historique, parce que nous, on a tendance à, dans notre monde, je vois une map monde derrière moi, une carte là-bas, on voit des nations. Mais à l'époque de la Renaissance, je ne suis pas très cultivé historiquement, mais à l'époque de la Renaissance ou même avant, on raisonnait, même dans l'Antiquité, on raisonnait plus en termes de cité, cité-nation presque.
Des cités-états.
Des cités-états, et c'est un peu ce qu'il y a dans votre truc, et c'est très dépaysant pour un homme moderne, une femme moderne, qui vit dans des nations, des groupes de nations, une ONU. Là, on vit, c'est intéressant parce qu'ils ont aussi des colonies, il y a toute une sorte de... Voilà, il y a beaucoup de... Moi, j'adore cette ambiance, qu'on dit Renaissance, mais de cité, qui est différente de ce qu'on vit actuellement.
Oui, puis qui sont des cités très vastes, donc du coup, qui peuvent contenir effectivement une grande population, même plusieurs duchés, dans le cas de Gemina. Moi, j'adore les cités-états, voilà. Enfin, déjà, j'aime bien tout ce qui est ville, en général, même dans mon travail d'éditrice et tout. Là, vraiment, faire des villes qui soient grandes, qui ont une grosse organisation politique, qui sont des corps étatiques à elles toutes seules, ça me fascine. En plus, je suis très joueuse de civilisation, donc j'adore les cités-états. Voilà.
Et il y avait un souhait est-ce qu'il y avait un souhait de message politique, parce que alors sans divulgacher les 6 romans, il y a une proposition d'organisation à un moment donné qui émerge.
Alors oui, c'était il y a aussi que dès le début on savait où on allait terminer, on savait à peu près ce qu'on voulait faire, et aussi sans vouloir passer un message politique de manière absolue, on se disait c'est deux villes c'est de que ce soit Gemina ou de Haven, politiquement, géopolitiquement, elles sont un peu en bout de course en fait. Elles ont arrivé au bout de leur modèle. Et du coup, la question qui se pose un petit peu en sous-texte, même si elle est jamais posée clairement au personnage, c'est bah, comment est-ce qu'on réinvente, comment est-ce qu'on réenchante pour trouver une nouvelle manière de vivre ensemble.
Oui, comment on arrive à penser un autre modèle quand on a grandi dans un modèle qui fonctionne pas, qui fonctionne plus et dont on ne voit que les failles en fait.
D'ailleurs, dans Capital du Nord, je crois que les enfants ils sont élevés justement pour être la population de demain, et pour incarner et trouver d'autres solutions que c'est un peu médiéval comme.
Oui, puis paradoxalement, finalement, cette éducation qui est censée faire d'eux les dirigeants de demain, donc vraiment faire perdurer le système en fait. En réalité, ça leur ouvre les yeux sur ce que le système a de mauvais. Et ça leur donne finalement l'espèce d'impulsion de vouloir le changer ou à défaut le détruire. Et sachant pour passer à autre chose.
Ouais, sachant que la volonté des parents, c'est entre guillemets de faire un peu façon Lampedusa dans le Guépard, c'est que tout change pour que rien ne change en fait, pour faire perdurer le système. Et justement, leur éducation leur permet de dire mais en fait on peut plus. Ça marche plus.
On peut plus et on ne veut plus.
Et on ne veut plus.
Ce qui rend la qualité de. Du lectorat pas visé très large parce qu'on a on peut avoir ça pourrait être du young adulte mais de la young fantasy mais en fait non ça s'adresse à tout le monde même si les personnages ils subissent un voyage initiatique quelque part mais il y a quand même une maturité de ces personnages qui ne sont pas des adolescents idiots, ils sont plutôt matures même pour leur âge. Ce que j'ai apprécié c'est que justement moi j'arrivais à m'identifier en tant que homme c'est le lectorat est très vaste et c'est super justement. Merci.
C'est vraiment ce qui me réjouit le plus parce que au moment de l'apparition honnêtement je ne savais pas quel allait être ce lectorat.
Ouais. Parce que c'est vrai que comme les personnages sont des jeunes adultes, on s'était dit est-ce que c'est du jeune adulte ? En vrai on a beaucoup tergiversé.
Non puis je pense qu'on pensait vraiment, on s'attendait en fait à avoir plutôt des lecteurs qui nous ressemblent, qui sont cadras, anciens rôlistes, voilà. Et il y en a, hein. Tant mieux, on est content. Ouais. Mais effectivement on a été aussi hyper surpris d'avoir des jeunes, voire beaucoup plus jeunes. Des personnes plus âgées qui lisaient pas forcément d'imaginaire, des personnes plus jeunes qui lisaient pas forcément d'imaginaire non plus, vraiment des horizons super différents et en discutant avec eux on se rend compte que tout le monde y trouve pas forcément la même chose mais en tout cas ces personnes qu'on a rencontrées elles y ont trouvé leur compte. Alors certains c'est le côté l'aventure, d'autres c'est la magie, avec l'enquête qui voilà sur les, il y a ceux qui effectivement le système politique ça les intéressait, la façon dont sont dépeints ces deux systèmes en décadence. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir ce que chacun des lecteurs peut puiser dans un roman. Enfin, après, c'est la beauté de la littérature aussi. C'est une fois que le livre est paru et fini, c'est plus à ses auteurs de dire de quoi ils parlent. C'est les lecteurs qui s'approprient les personnages, les intrigues, les décors et qui nous disent, eux, ce qu'ils en ont tiré.
Il y a des retours qui vous ont intéressé, qui vous ont étonné.
Plein.
Alors, par exemple...
Beaucoup d'amour, hein.
Beaucoup d'amour. C'est un peu bizarre parce qu'en plus on est des vieux cyniques. Mais bon, c'était. mais en fait quand on est en festival, on a des étoiles dans les yeux comme quand on avait 25 ans. donc du coup ça ne se voit pas quand on est en festival, mais c'est vrai que on a eu énormément de retours positifs qui font extrêmement plaisir. Comme dit Claire, des exemples précis, je saurais même pas en dire.
Vous avez eu des prix?
Il faut aussi, c'est une belle reconnaissance.
C'est une belle reconnaissance. Et puis surtout aussi, pareil, des prix de lecteur, des prix de libraire, des prix de jury imaginaire. Pareil, on se dit, en fait, on a réussi, entre guillemets, tout ce qu'on voulait faire, nous, quand même, au début, c'était justement d'avoir quelque chose, des fictions qui soient suffisamment vastes, parce que c'est ce qu'on aime, pour qu'on puisse y trouver plusieurs angles d'approche. Nous, c'est ce qu'on aime en tant que lecteur, donc c'est ce qu'on s'était dit, on va faire la même chose, sauf qu'on sait que c'est un peu casse-gueule, et du coup, on pensait vraiment pas que ce serait un succès comme ça, mais là, pour le coup, on a vraiment touché tout un tas de types de lecteurs différents.
Et j'ai une petite... Après, je te laisse tranquille, mais là, je peux pas résister. Il y a un jeu qui est très important, qui figure un peu partout, le jeu de la tour de garde. Et malheureusement, je crois que aux dernières nouvelles, la boîte de jeu n'existera pas.
Après, tout est encore possible si jamais il y a un concepteur de jeu qui veut un peu se frotter à ce défi, qui est prêt à se lancer là-dedans, à vouloir conceptualiser des vraies règles pour le jeu. On en serait ravis. Et puis, on serait ravis de travailler avec lui s'il a besoin de nous. Hein. C'est vrai que nous, on l'a plus utilisé comme un artefact narratif, en fait, le jeu. Parce que c'est un principe d'unité, ça permet de montrer qu'on est dans le même monde, puisque c'est un jeu auquel on joue aussi bien dans le nord que dans le sud. C'est aussi bah, une métaphore de la fiction, une métaphore de
des deux villes, qui se font face.
Mais c'est vrai que si un vrai jeu existait, ce serait vraiment cool.
Oui, ce serait drôle.
C'est une fantaisie qui par ailleurs est assez légère. Enfin, moi j'ai trouvé que, alors je suis personnellement plus un lecteur de science-fiction d'ailleurs que de fantasy. C'est peut-être d'ailleurs.
Peut-être que ta chaîne, tu pourrais faire une autre chaîne Miroir Fantasy.
Non. c'est de la SFFF sur la chaîne. Mais c'est vrai qu'un un lectorat qui adorerait une fantasy qui est très marquée, il trouverait peut-être pas son compte finalement. Et j'ai même trouvé au début que au tout début c'est tellement, je dirais, discret que on pourrait le prendre pour du fantastique presque.
Du fantastique dans un monde imaginaire, ouais, tout à fait.
Oui, parce que c'est effrayant, hein.
Ouais, et puis surtout cette magie, c'est pas une magie qui est maîtrisée par un collège de sorciers qui saurait comment lancer des boules de feu ou des choses comme ça. Il n'y a pas de système de magie. Au contraire, c'est un truc qui est très chaotique et effrayant. On ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas comment ça fonctionne. On sait que c'est extrêmement dangereux.
Et certains personnages n'y croient pas à leur existence.
Certains personnages n'y croient pas.
On est dans un monde où effectivement c'est pas censé exister en fait, et du coup c'est d'autant plus inquiétant quand ça s'immisce un peu dans la réalité.
Et aussi c'est bah du coup c'est un vrai artefact narratif aussi, dans le sens où bah quand la magie arrive, bah ça fait vraiment quelque chose au personnage.
Et enfin, au lecteur aussi.
Et au lecteur aussi. Il y a un frisson, on se demande ce qui s'est passé. Enfin voilà, on le traite vraiment effectivement comme tu dis comme du fantastique et pas comme du merveilleux.
Ouais.
Et il y a aussi un petit détail aussi. Moi, j'aime bien les détails dans votre vin. C'est aussi la gastronomie.
Ah oui.
Elles sont vraies, ces recettes, c'est pas comme le jus de la tour.
Alors, elles sont vraies, oui et non.
Vous avez testé de les cuisiner.
Certaines, on les a faites. En fait, elles sont vraies, mais je reste volontairement flou. Parce que en fait, je mélange des choses et je sais que c'est un sujet, il faut pas trop mélanger. Enfin, il y a des recettes italiennes, des recettes corses, des recettes du sud de la France. Je pense que il y a des gens qui, si vraiment s'y connaissaient, me diraient mais c'est n'importe quoi, on fait pas du tout ça comme ça. Enfin voilà, il y a des cannelloni au figatelli, hein, concrètement, ce qui n'existe pas. On les a fait,
c'est très bien.
Pourtant, c'est très bon.
On peut faire une version végétarienne en remplaçant le figatelli par la figue. Et c'est pas seulement poétique, c'est vraiment bon.
Donc peut-être un jour dans l'avenir un livre de recettes.
Non mais plus globalement en fait l'idée aussi d'avoir ce qu'on voulait dès le début aussi c'était vraiment brosser à grands traits une ville complète, un système complet et une culture complète, et puis pas que la culture de les conquêtes, les puissants, la politique, etc. Juste dire la politique, qu'est-ce que c'est qu'en fait la culture d'une ville quand on est vraiment au niveau des pavés. Bah en fait pour moi la réponse c'est la cuisine, c'est le vin, c'est donc du coup ça permettait de donner une ambiance et une culture à cette ville entre guillemets à peu de frais, et puis en se faisant plaisir.
Ça met en appétit, hein, je vous l'assure.
Ah merci.
Et les rencontres permanentes aussi, parce que ça c'est quelque chose qui m'a marqué dans la ville de Gemina, c'est que le personnage de Nox ne peut pas faire 10 mètres sans croiser quelqu'un qu'il connaît ou sans qu'il lui arrive quelque chose.
Pour avoir aussi l'impression que c'est une ville qui est surpeuplée, qui est vraiment pleine de gens, et puis aussi le personnage de Nox.
Que les gens vivent dehors aussi.
Parce qu'effectivement déjà il fait beau, et puis en plus il n'y a pas suffisamment de place, ils se partagent des logements, etc. Et puis je voulais en fait que Nox il ait cette espèce de notion qu'en anglais on appelle le streetwise. Enfin, la connaissance des rues, c'est-à-dire
c'est le parcours presque. Hein.
Ouais, il y a déjà à la fois d'un point de vue géographique, où en plus il hack entre guillemets la ville en faisant du parcours, oui, en escaladant.
Et puis il utilise aussi des petits.
Il apprend à utiliser encore des chemins encore plus détournés.
De traverse.
Mais en plus, ce streetwise entre guillemets tel qu'il est théorisé, c'est pas seulement géographique, c'est aussi c'est aussi sociologique, c'est connaître tous les gens. C'est connaître le système, les microsystèmes qui font vivre une ville. Donc effectivement.
Et les mythologies.
Et les mythologies.
Et dans la capitale du Nord, ce streetwise existe aussi, mais il est différent.
Complètement différent dans la mesure où les quartiers sont un peu coupés les uns des autres. C'est comme s'il y avait plusieurs villes dans une ville. Il y a aussi une frontière qui est plus marquée entre le privé et le public, entre l'intime et l'espace public. Donc les gens ne se comportent pas dans la même manière quand ils sont en public ou quand ils sont chez eux. Par exemple au niveau du tutoiement et du vouvoiement, même au sein des familles ou des choses comme ça, je vais lui mettre des codes qui sont peut-être plus des codes du Nord en fait, finalement, bah justement pour incarner un petit peu plus cette opposition.
Et les personnages principaux, à l'inverse de Gemina, connaissent mal leur ville au début finalement.
Ils connaissent que la partie de la ville qui est la leur, c'est-à-dire celle qui est celle de leur caste en fait. Et finalement, au fur et à mesure, ils vont être amenés à explorer, à découvrir d'autres aspects de leur ville qu'ils ne peuvent pas, donc ils connaissent l'existence, mais qu'ils ne connaissent pas vraiment, en fait.
Hmm. Une dernière question, peut-être ?
Oh, je crois que j'ai un peu piraté ton émission, donc je vais te laisser, je vais te laisser conclure.
Non, ben... Donc, en ce moment même, vous avez un projet d'écriture ?
Oui, on a même des romans qui vont paraître en octobre.
Octobre, ah oui.
Oui, c'est... Alors, Guillaume va...
Avez terminé quand, le point final de la Tour de Garde ?
Alors, nous, on a terminé l'écriture, c'était au mois d'août de l'année dernière. C'est pour ça qu'on a eu un peu de temps depuis.
Tu as terminé l'écriture même avant, parce que ton livre, il est paru...
Oui.
Mais non, de l'été d'avant.
De l'été d'avant, ouais, de l'été
d'avant. Parce qu'il est paru en avril de l'année dernière. Oui, non, mais on n'a pas fini.
C'est pour ça, oui, en fait, ça fait un an et demi qu'on a terminé d'écrire, en fait. Donc après, il y a eu.
Comme on écrit en parallèle, même si les livres ne sortent pas en même temps, c'est vrai que moi, j'ai fini en même temps que Guillaume, mais le livre est sorti 6 mois après le sien. Donc c'est sûr que du coup,
on a pu avancer sur d'autres projets.
Et ça a été quand même relativement rapide, pour 6 romans.
Aussi parce que, alors, c'est vrai que ça a été rapide en termes de parution, mais nous, quand on est allé voir l'éditeur, on avait déjà, comme on disait tout à l'heure, les 4 romans.
Plus de la moitié.
Donc il nous en restait plus qu'un, chacun à écrire, finalement. C'était facile.
Ça ferait une super série Netflix ou Apple Plus ou je ne sais quoi, ou Amazon, honnêtement.
Ou un super jeu vidéo, en fait.
Aussi tout.
On a plein d'idées là-dessus.
Voilà,
il y aurait une partie aventure.
Et des contacts déjà sur le sujet?
Non, pas trop de contacts.
On est ouvert à toute proposition.
Ok, le message est lancé.
Ouais, le jeu vidéo, c'est très important pour nous. Enfin, je pense que dans nos inspirations, ça a une part absolument énorme.
Complètement.
On parlait avec un lecteur justement hier de l'influence qu'a eu pour nous tous les Suikoden. C'est
les Suikoden qui est une série de JRPG qui date des années 90. Hein.
D'accord.
Et où en fait, il y a une influence réelle sur la Tour de Garde. Donc, on va pas dévoiler ici parce que.
Il y a une réelle érudition quand même. Hein, pop culture, on va dire. On voit votre background et tout ce que vous avez vécu avant.
C'est une érudition de notre temps, quoi.
Oui, aussi, oui. C'est ce qu'on a grandi dans les années 90. Mais en tout cas, on s'est inspiré de plein de choses différentes. Enfin, on pourrait donner effectivement des dizaines et des dizaines d'inspirations. Mais je pense que n'importe quel auteur fonctionne à peu près de la même manière.
Ouais. Mais effectivement, il y a beaucoup d'enjeux vidéo, et pour moi ce serait vraiment l'achievement ultime d'avoir une version, une adaptation jeu vidéo d'un de mes romans. Limite, ça me plairait plus qu'un film, quoi.
Ah oui. Ah bah, d'accord, on suivra ça avec attention. Et donc un prochain roman en octobre, vous disiez?
Oui.
Ouais, alors moi, un prochain roman en octobre, ce sera un standalone, du coup une histoire complète aux Forges.
D'accord.
Ambiance un petit peu différente, en gros c'est, faut imaginer une ville universitaire qui serait quelque part dans une vallée des Alpes.
Une cité-état.
Une cité, voilà, dans une vallée des Alpes, quelque part entre l'Italie et l'Autriche au début du 19e siècle.
D'accord.
Et moi, ce sera jeunesse, ce sera l'école des loisirs et ce sera la science-fiction. Donc, je change de genre et de public.
D'accord.
Et on parlera de liens entre l'humain et l'animal et de la survie de l'espèce humaine.
Au Fort de Vulcain, à nouveau?
Non, ce sera l'école des loisirs.
L'école des loisirs, c'est une maison d'édition, en fait.
Oui, ok. Bon, écoutez, merci d'avoir accepté cette interview.
Merci.
On a hâte de vous relire ou de jouer à vos jeux vidéo.
Et merci aux Intergalactiques de nous la permettre.
Tout à fait. Merci à Jeanne.
Galaxy Pop, la pop culture. Elle est belle, ma pop culture. Elle est fraîche, ma pop culture.
Galaxy Pop.
Vous êtes sûr qu'elles sont fraîches?
Comment ça, elle est pas fraîche, ma pop culture?
Elle est belle, ma pop culture. Elle est belle. Venez, venez.
Elle est bonne, ma pop culture.
Galaxy Pop. Viens, on va bien s'entendre. Désolée, je n'ai pas pu m'en empêcher. Bisous.